Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts.
Nos associations sont portées par des valeurs, parfois inscrites dans nos missions ou dans nos statuts. Démocratie, égalité, respect, lutte contre les discriminations, etc. Elles sont censées être des moteurs de l'engagement des membres, des bénévoles, de l'équipe salariée ou encore du conseil d'administration. Mais, pris par le quotidien, surtout en cette période agitée, nos fonctionnements peuvent s'éloigner de ces valeurs et parfois reproduire des discriminations ou rapports de pouvoir que nous souhaitons combattre. Pour y remédier, un enjeu est de pouvoir explorer les rapports de force au sein de nos associations. Mais où et comment prendre le temps de penser et de se former sur le fonctionnement et la gouvernance de nos associations? C'est cette douloureuse et épineuse question que nous vous proposons d'aborder dans ce 29e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les associations. Et pour cette thématique, nous sommes reçus par Alice et Héloïse de l'association Brûlante. Bonjour Alice, bonjour Héloïse.
Bonjour, bonjour.
Nous recevons également Nora, formatrice et consultante sur les questions de discrimination et d'oppression systémique. Bonjour Nora.
Bonjour.
Et nous sommes accompagnés par une dizaine de participants et participantes de la formation « Explorer les rapports de pouvoir dans les organisations associatives ». Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yaël. Bonjour Yaël.
Salut Domi.
Cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Spotify, Deezer, SoundCloud et Peertube. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web www.questionsaupluriel-assaut.com. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti!
Merci Domi. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, d'ailleurs tu l'as pas dit, on est le 29e épisode, mais on est surtout le premier épisode de la 4e saison et donc on change nos habitudes pour 2026. L'idée aujourd'hui c'est qu'en fait on est à une formation et donc on n'est pas accueilli comme d'habitude. Donc la formation, tu l'as dit, c'est explorer les rapports de pouvoir dans les organisations associatives, c'est organisé par l'association Brûlante, donc qui va se présenter juste après, et co-animé par Nora, qui va aussi un peu se présenter tout à l'heure. Et au cours de l'épisode, vous entendrez donc Héloïse et Alice de l'association Nora, qui nous apportera un éclairage scientifique, associatif, militant, tout en même temps. mais surtout, celle... Et ceux, mais c'est surtout celles, si je regarde un peu autour de la table, qui ont suivi cette formation et qui sortent quand même de 2 jours intenses et qui vont en fait tout simplement un peu témoigner et débriefer collectivement de ce qu'elles ont retenu, de ce qu'elles ont vécu, de avec quoi elles repartent, ou avec quoi en tout cas elles vont essayer de repartir et de revenir dans leurs assos. Alors soyez pas surpris si vous entendez des bruits de chaises, des passages de micro, des câbles. Voilà, on va essayer de faire ça le plus propre possible. Désolé Guillaume qui va devoir lisser tout ça au montage. mais voilà, c'est le jeu, on teste et si ça marche, on essaiera peut-être d'en refaire d'autres. En tout cas, avant de plonger peut-être dans le cœur du sujet, on aimerait prendre un temps avec quand même Héloïse et Alice, donc de l'association Brûlante, pour connaître un petit peu mieux l'assaut et surtout avoir un peu le contexte de cette journée de formation. Domi, je te relaisse prendre la parole.
Oui, on va bousculer un peu la carte d'identité habituelle de Questions d'assaut. Donc, Héloïse, Alice, est-ce que vous pourriez commencer par nous décrire l'activité de Brûlante? Qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, du coup, je suis Héloïse, cofondatrice et co-directrice de l'association. Et Brûlante, c'est une association de loi 1901 qui a pour but de lutter contre les violences sexistes et sexuelles et les violences de genre à travers l'éducation à la vie affective et sexuelle et des sensibilisations à l'égalité des genres. Et dans nos activités, on propose à la fois des actions de sensibilisation, des formations pour les professionnels, pour qu'ils deviennent relais de cette éducation, des événements grand public et surtout on fait du matériel pédagogique qui est libre de droit, libre d'accès sur notre site internet. Voilà, en quelques mots, brûlante.
Et donc, en plus de ces activités régulières, là, on est sur un format un peu différent au sein du projet Collab qui est porté par deux associations francophones, donc Nous Brûlantes et Comme un lundi, basées à Bruxelles. Donc, l'objectif du projet, c'est de discuter des systèmes en place dans les structures associatives, notamment en France, les associations de loi 1901. En Belgique, on peut parler des ASBL. On voulait discuter des modèles et des systèmes qui sont en place où on se rend compte que même dans des associations à impact social, on peut se retrouver face à des situations d'inégalité, d'injustice, que ce soit pour les personnes concernées, bénéficiaires, mais surtout pour les personnes qui travaillent au sein de ces associations. Donc voilà, donc on a discuté avec nos collègues en Belgique, comment est-ce qu'on pourrait proposer des ressources pour partager ça autour de nous. Une des façons de faire ça, c'était de proposer aujourd'hui cette semaine d'ateliers de concertation autour des rapports de pouvoir et du sexisme dans les structures associatives. Et donc, c'est avec plaisir que nous avons accueilli une dizaine de participants, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Voilà.
Merci beaucoup. Vous anticipez en plus nos questions. Donc, on peut peut-être aller sur la troisième qui est, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus les objectifs et le contenu de la formation ? Puis, Nora, tu pourras peut-être te présenter.
Et d'ailleurs, j'en profite parce que là, Alice, il me semble que t'as pas utilisé le mot formation, t'as utilisé le mot concertation. Donc, peut-être aussi, si vous pourrez revenir dessus, ça peut être intéressant.
Alors, on a utilisé le mot concertation parce que nous, on pense que on est assez humble au niveau de la gouvernance. On a beaucoup de progrès à faire. C'est justement pour ça qu'on a envie de se lancer sur ce sujet. On a envie de créer du bien-être au travail. Et on est persuadé que ça passe justement par la gouvernance. Donc, c'est pour ça qu'on voulait proposer ces espaces et concertation parce qu'on a vraiment la chance d'avoir aujourd'hui une dizaine de personnes qui connaissent beaucoup de choses sur le sujet, qui ont une grosse expérience de terrain. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir partager tout ça ensemble et de pouvoir s'échanger des outils, de mutualiser. Et il y a quand même un aspect formation, il y a quand même eu de la théorie. Il y a aussi Nora qui est venue pendant ces deux jours co-animer et proposer des outils de facilitation. Voilà, donc on est entre de la formation et des espaces de concertation. Les objectifs de la formation, la première, c'est un peu ce que je viens de dire, c'était de créer une mutualisation, une mise en réseau. Et en fait, on est tellement débordé parfois dans le monde associatif d'offrir un temps où on peut se poser, discuter de ça, échanger, se rendre compte qu'on n'est pas seul dans tous ces enjeux. Et le deuxième objectif, c'était aussi d'explorer un peu les rapports de domination parce qu'ils vont être moins souvent abordés sur la question des rapports de pouvoir ou dans les formations, on va dire, sur la gouvernance partagée. En tout cas, nous, quand on a fait nos recherches, on trouvait qu'il y avait très peu d'espace pour parler des rapports de domination. Il y a beaucoup d'outils de gouvernance partagée qui sont créés, mais quand on commence à creuser, honnêtement, moi, je trouvais que c'était, en tout cas dans les ressources francophones, c'était un peu un angle mort. Du coup, on voulait pouvoir proposer des outils pour affiner un petit peu l'analyse des structures sur ces questions-là. Voilà.
En tout cas, même si on ne prétend pas avoir la science infuse sur les sujets, ce qu'on voulait vraiment faire pendant ces quatre jours, c'est non seulement parler des choses négatives qui ont pu arriver dans nos expériences propres, parce qu'avant Brûlante, on a eu nos propres expériences et aujourd'hui, on aimerait éviter les expériences négatives qu'on a eues, mais aussi parler des choses positives et, voilà, comme on disait, partager les dispositifs, les leviers d'action. Je crois que je l'avais dit en début de formation, c'est important de se rappeler de nos accomplissements et non pas que les obstacles.
Nora, si tu veux ajouter quelque chose, peut-être sur l'intention ou le pourquoi tu as accepté.
Et Alice, on dit beaucoup de choses déjà. Moi, j'étais déjà très honorée de l'invitation de Brûlante à co-faciliter une partie de cette formation. Et parce que c'est en effet un sujet qui est de plus en plus, enfin qui nous préoccupe, je pense, de plus en plus au sein de du milieu associatif. Qu'en effet, comme le disait Louise, il y a assez peu d'espace pour en parler. Moi, je sais qu'en tout cas, en tant que formatrice et consultante sur les questions d'oppression systémique et discrimination, c'est assez récemment que les demandes émergent et que je suis contactée pour intervenir au sein de collectifs et d'associations qui portent des projets de justice sociale pour mieux comprendre les mécanismes discriminatoires et oppressifs et pour apprendre et s'outiller pour ramener en fait cette lecture et cette grille de lecture des rapports de domination structurelle pour que cette grille de lecture nourrisse les modes d'organisation et de gouvernance des associations ou des collectifs pour ne pas reproduire des inégalités sociales qu'on n'aurait pas envie de reproduire au sein d'assos qui visent généralement à lutter contre des inégalités sociales.
Merci beaucoup à toutes les trois. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence un peu à le débrief collectif. Et peut-être avec justement cette première question, quand même, c'était 4 jours hein, de concertation que vous faites. C'est hyper engageant de prendre 4 jours comme ça dans son organisation. Surtout en ce moment, on sait que le temps est resserré. La période de décembre, on sait que c'est jamais la plus facile aussi. Alors peut-être première question un peu ouverte à toutes les personnes qui est présente autour de la table, qui sont en fait un peu plus que 10, hein, on dit 10 depuis le début, mais en fait on est plutôt à 12-15. Tout simplement, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit que cette formation, elle était intéressante pour vous et comment vous êtes déjà comment vous avez entendu parler et comment vous êtes lancé dans l'aventure.
Hasard de calendrier, mais aussi d'opportunité. On le sait dans les associations, malheureusement, c'est un débat qui revient souvent. Mais en fait, nous, on était en pleine réflexion pour faire évoluer l'organisation de notre structure, les perspectives, qu'est-ce qu'on voulait pouvoir en faire. Tout simplement pour pouvoir essayer d'avancer de la manière la plus horizontale, mais aussi la plus efficace possible et sortir de difficultés qu'on avait pu rencontrer. Donc, on s'est dit, un moment particulier d'échange entre dirigeants, c'est une belle opportunité, tout simplement, pour pouvoir poser les difficultés, être dans un cadre sans jugement et en même temps pouvoir se projeter sur la suite.
Et donc, vous êtes un bénévole, un membre d'un CA, en soi.
Moi, je suis salarié et notamment, l'enjeu, c'est de pouvoir aligner à la fois la question de l'équipe salariée, on est une jeune structure qui se développe, et en même temps, les enjeux en lien avec le conseil d'administration, le bureau. On sait qu'en réalité, les associations, c'est souvent des organismes complexes parce qu'on rassemble à la fois des équipes professionnelles, des membres du conseil d'administration, des bénévoles. Notre objet social fait qu'on a une nature particulière et une attente vis-à-vis tout simplement de nos bénéficiaires. Notre objet, c'est de pouvoir être le plus efficace à leur destination, mais c'est aussi de s'assurer qu'ils puissent faire partie des décisions. Et donc, tout ça, en réalité, complexifie tout ce qui est de l'organisation, mais en même temps, c'est ce qui permet de faire fleurir les organisations. Donc, c'est aussi quelque chose auquel on est particulièrement attaché.
Donc, pourquoi je suis venue ? Alors, c'est une copaine qui nous a parlé de cette formation. Et le sujet, la répartition des pouvoirs, c'est quelque chose qui traverse la société, mais aussi nos organisations. Donc, tout de suite, j'ai dit oui. Après, j'ai vu 4 jours, j'ai dit waouh ! Mais ça mérite, parce que là, au bout de 2 jours, déjà, il y a énormément de matière. Et puis, le groupe, ça matche bien, c'est très bienveillant. Donc, je suis pressée d'aller jusqu'au bout et de voir les enseignements qu'on peut en tirer. Mais je trouve qu'on a quand même beaucoup de ressources en nous, malgré ce qu'on traverse.
Moi, je suis venue parce qu'il y a une vraie droitisation, voire extrême droitisation de nos sociétés et du gouvernement français, notamment en ce moment. Et je crois que ça devient un enjeu presque de survie, en fait, démocratique et égalitaire, pour les assos, de monter en compétence et il n'y a plus le temps, en fait. Il faut être efficace et avoir de l'impact. Et on se rend vraiment compte que cette action sociale, l'État s'en chargera pas. Et du coup, c'est forcément aux assos de prendre le relais. Enfin, en tout cas, moi, je considère qu'il y a un pouvoir qui se situe dans ces endroits-là. Et voilà, et du coup, ben, on va se sauver nous-mêmes et lutter contre les oppressions nous-mêmes et contre les inégalités qu'elles engendrent, quoi.
Moi, je suis venue parce que je suis dans plusieurs associations et j'ai occupé des fonctions à responsabilité salariée ou bénévole avec des enjeux de pouvoir qui me semblaient différents, mais pas forcément avec une évidence pour mettre des mots dessus. Et donc, je voulais voir un peu comment ça se passait ailleurs. Et je trouve ultra intéressant d'échanger et de se rendre compte qu'il y a à la fois des thématiques communes, à la fois des choses qui sont très différentes et qui m'avaient pas forcément percuté avant d'échanger avec les autres. Et de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut s'apporter, voir des super bonnes idées qui n'attendent qu'être mises en œuvre ou d'autres qui ont déjà été mises en œuvre. Et je pense que j'avais aussi envie de passer un moment, agréable finalement, avec des personnes qui ont un peu tout le même objectif, dans un sens que tout est un peu agressif et violent à l'extérieur, et que ces temps d'échange, c'est super agréable d'avoir des gens qui, même si parfois il peut y avoir de la souffrance individuelle, collective, il peut y avoir de la colère, en fait déjà c'est super ok, on a le droit d'être en colère, de pas être content, et de vouloir changer les choses, et comme c'était dit tout à l'heure, il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a du soutien, et c'est aussi ultra agréable de pas avoir l'impression de devoir justifier sa présence, de devoir se battre, de devoir et faire quelque chose pour et juste s'exprimer en fait et dire ce qu'on a envie de dire et de se sentir comprise en quelques instants par des personnes qui vivent des situations peut-être pas forcément identiques mais avec une envie d'aller de l'avant et de sentir aussi de la motivation et de l'entrain même derrière parfois la fatigue militante qu'on peut ressentir ça change pas l'envie d'avancer et de faire des choses.
Moi, je suis salariée dans des structures associatives et je suis venue parce que j'ai été plutôt dans des structures où le mot horizontalité a pu être posé, mais il y avait un vrai décalage entre l'idée et l'horizon prometteur d'une horizontalité, d'une gouvernance partagée, de management participatif et la réalité à la fois des vécus ou des postes couteau suisse sous pression avec des demandes de subventions et un mode projet qui fait que le quotidien est rude mais porteur de sens. Et donc, il y avait une vraie question sur comment on prend soin des collectifs. Et à un moment, j'en suis arrivée à plus une question paradoxale qui était là, pourquoi dans des structures horizontales, on reproduit les inégalités, mais presque de façon plus forte, parce qu'elles ne sont pas nommées. Donc moi, je dirais que prendre 4 jours pour nommer, c'est vraiment nécessaire, parce qu'à la fois, on n'a pas les mots, c'est difficile aussi de nommer dans notre contexte actuel, mais donc voilà, prendre là le temps de nommer les réalités, de nous aussi nommer ce qui a été vécu, ça fait vraiment du bien pour retrouver un peu d'espoir et pouvoir avoir des actions collectives, car la Delphité est possible.
Merci beaucoup. Et justement, plusieurs d'entre vous, vous avez commencé aussi à dire en fait, que vous avez découvert des choses et déjà appris des choses. C'est-à-dire que vous êtes venus avec, bien sûr, avec des idées, des attentes, même voire des besoins dans ce que vous exprimez. Alors du coup, qu'est-ce que vous retenez peut-être de cette formation ou qu'est-ce que vous avez envie de partager?
On rappelle qu'on est à mi-formation.
On est à mi-formation, exactement.
Hier, on a eu une discussion sur la représentativité des personnes concernées au sein des organes décisionnaires et ou de pouvoir, on va dire. Effectivement, moi, j'étais vraiment dans une réflexion assez... il faut plus de personnes qui représentent au sein des CA, par exemple, les personnes accueillies, les usagers, enfin, qu'importe comment ils sont... Les personnes sont nommées dans les différentes structures. Et on m'a renvoyé, effectivement, que ça pouvait être aussi considéré comme stigmatisant, problématique, renvoyer les personnes à des formes de violence aussi. Enfin, des choses que moi, j'avais pas intégrées. Et qui m'ont donné beaucoup matière à réflexion aussi dans un positionnement que peut-être j'ai eu, même en tant que personne peut-être de pouvoir à un moment donné dans une structure associative, dans ma manière de faire, dans ma manière de proposer aussi à des personnes de rejoindre, d'intégrer, de réfléchir, de discuter. Donc ça, c'est ce qui m'avait le plus marqué hier. Donc j'ai remercié la personne en l'occurrence qui m'a permis cette prise de conscience. Mais il n'y a pas que ça.
ça. Je pense que parfois dans nos problématiques, on oublie aussi les souffrances d'autres personnes dans leurs propres problématiques. On est très concentré sur ce qui va pas chez nous c'est intéressant. C'est pas que ça fait du bien. C'est pas genre on se dit on se sent moins seul, mais se rendre compte que ben il y en a qui ont par exemple qui ont dit bah tant pis moi je lâche l'affaire, ça me saoule, j'arrête, je pars et je vais pas arrêter mon militantisme, je vais juste le vivre autrement. C'est aussi rappeler qu'en fait même en tant que bénévole, même en tant que salarié, on a le droit de dire bah ça me convient plus, c'est pas bon pour moi et ça veut pas dire que j'arrêterai mon combat, mais je vais le vivre autrement. Voilà, donc c'est des choses en tout cas me concernant, c'est vraiment ce genre de prise de conscience, de regards vécus différemment sur des situations parfois qui pourtant font écho à des situations que moi j'ai vécues et voir des personnes l'avoir vécu autrement, avoir réagi autrement me questionne aussi sur moi, sur ce que je ferais différemment à l'avenir ou voilà.
Je me dis justement parce que là on est rentré tout de suite un peu dans le vif du sujet en parlant de voilà, reproduction de rapports de mission, mais peut-être Nora, est-ce que tu peux nous faire un petit dézoom sur, en fait, c'est quoi, quand on parle de rapport de domination, c'est quoi, limite, le spectre, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais genre, qu'est-ce que ça peut englober? Parce que je pense, comme tu disais, qu'on a peut-être, on le voit d'une fenêtre, mais...
Alors, quand on parle de rapport de domination, en fait, on parle de rapport d'hégémonie, sociale, culturelle et politique de certaines catégories sociales sur d'autres au sein de notre société. Peut-être avant de décrire ou de décliner différents rapports de domination qui structurent nos sociétés, peut-être parler d'oppression systémique. Quand on parle d'oppression systémique, et c'est ce qu'on a vu dans les éléments de langage qu'on a tenté de partager hier, il y a deux aspects importants à prendre en compte. C'est des déséquilibres socio-économiques qui se sont construits historiquement au fil des siècles, et de plusieurs siècles, et sont des pratiques à la fois individuelles et collectives, volontaires ou non, qui reproduisent ces déséquilibres socio-économiques. Et quand on parle de rapports de domination, et donc de ces phénomènes d'hégémonie, de certaines catégories sociales sur d'autres, et de catégories sociales en tant que catégories de population sur d'autres, en fait on parle de hiérarchie sociale. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un consensus, notamment dans les milieux académiques et militants, que ces hiérarchies sociales, en fait, elles structurent nos sociétés à toutes les échelles de nos vies, c'est-à-dire à tous les âges de nos vies, mais aussi dans tous les espaces sociaux qu'on traverse au cours de nos trajectoires de vie. Et ces rapports de domination, ils se construisent généralement autour de trois postulats, trois idées. C'est que un rapport de domination, il est construit sur la croyance qu'il y a des différences signifiantes, c'est-à-dire auxquelles on accorde une signification qui différencie les êtres humains, que ce soit voilà, sur des critères de classe sociale, sur des critères de genre, sur des critères d'âge, sur des critères liés au handicap, visibles et ou invisibles, sur des critères de religion, sur des critères de race. Alors là, je parle bien de race dans son acception en tant que construit social et historique, et pas de réalité biologique. Hein. Les sciences nous ont bien démontré qu'il n'existe pas de race biologique au sein de l'espèce humaine, mais c'est un construit social et historique qui continue d'impacter les vies des personnes racisées, c'est-à-dire qui subissent le préjudice lié à la racialisation des rapports sociaux, donc à la catégorisation raciale des êtres humains. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'il existerait des différences signifiantes entre les êtres humains, que ces différences, elles justifieraient une hiérarchisation des êtres humains, avec des êtres humains considérés comme supérieurs, des êtres humains considérés comme inférieurs. Et ces rapports de domination, ils s'exercent par le biais du pouvoir qui organise la société de manière à avantager de manière systématique les personnes considérées comme inférieures et à désavantager de manière systématique les personnes considérées comme inférieures. Et du coup, on a nommé plusieurs rapports de domination. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont envie d'en nommer certains ou de revenir sur certains qui leur semblent particulièrement importants à visibiliser dans les associations dans lesquelles elles évoluent et s'investissent.
Il y en a un sur la question du... On n'en a pas trop parlé, mais moi, ça m'a fait pas mal écho par rapport... notamment, il y a des associations qui travaillent sur la question de la santé mentale et la question du validisme. Du coup, la discrimination des personnes... que vivent les personnes en situation de handicap et aussi à quel point, quand on est salarié, RQTH dans une association, à quel point, déjà, en fait, qu'on est salarié... Normal, on galère à respecter son temps de travail, à respecter sa santé. Mais en plus, quand on a des maladies, qu'elles soient mentales, physiques, etc., comment on fait pour pouvoir vraiment offrir des bonnes conditions de travail dans l'associatif? Est-ce que c'est possible? À quelle limite on se confronte? Enfin voilà, moi, ça, c'est une question qui me nourrit un petit peu depuis qu'on a commencé la formation. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent nommer d'autres rapports de domination.
Alors oui. Il y en a plusieurs. Hein. Il me semble que le droit français catégorise plus d'une vingtaine de critères de discrimination dans ce pays. Et d'ailleurs, il y en a bien d'autres qui risquent d'apparaître, vu que c'est justement tout le travail des associations qui est la société civile aussi, de redéfinir aussi et de proposer d'autres critères selon leur expertise. Mais en tout cas, celle qu'on a quand même assez évoquée ici, et je suis personnellement très heureuse, c'est les questions liées au racisme, qui sont pour le coup des sujets, et comme par ailleurs les questions de sexisme, d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sont des sujets qui nous traversent et qui traversent tous les espaces et comme on aime à dire aujourd'hui, intersectionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont partout et transversales à tous nos sujets. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de réfléchir aussi ces questions dans nos associations. Comment déjà nous, en interne, on essaye de ne pas reproduire des discriminations racistes ou tout simplement du racisme dans nos organisations et surtout aussi à l'égard des personnes que l'on accompagne. Du coup, ça fait aussi écho au classisme, aussi beaucoup, hein, ce côté de... donc, classisme, c'est l'effet de classe hein, et de ce rapport aussi de domination qui, malheureusement, des fois, se fait de manière naturelle et qui se remet pas en question. Voilà, je suis l'accompagnant et c'est l'accompagnante. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre. Je suis la sachante et toi, tu ne l'es pas. Et justement, ce que j'ai apprécié avec cette formation aussi, dans cette réflexion, j'accompagne et tu es... la personne qui reçoit, c'est qu'au final, et c'est ce que je pense que beaucoup d'entre nous, on connaît par la théorie, c'est tout ce qu'on appelle des pédagogies dites féministes qui partent aussi du principe qu'on est toutes et tous des sachants et des sachantes, qu'on a toutes et toute notre expertise et qu'on a toutes et tous quelque chose à apporter aussi au commun. Donc les bénéficiaires sont autant expertes que les personnes qui accompagnent et qui justement ce sont celles-ci qui apporte ensuite l'expertise aux sachantes. Et du coup, dans les réflexions qu'on a pu avoir sur les questions de gouvernance, on s'est posé aussi le fait qu'il est aussi d'une importance capitale, après à réfléchir comment on le met en œuvre pour pouvoir quand même voilà, prendre des décisions, parce qu'il y a même la question juste de la prise de décision parfois est complexe, mais qu'il est important, voire vital, d'avoir des personnes concernées dans les gouvernances de nos associations, parce qu'elles-mêmes savent ce qu'elles vivent, donc sont les premières à pouvoir nous partager ce qu'elles vivent, et après comment nous, et là je parle de nous, donc en tant que professionnel, donc je ne parle pas des autres personnes présentes qui ne sont pas des professionnels. Voilà, comment nous aussi, des fois, en tant que professionnels...
Juste pour apprécier, quand tu dis professionnel, c'est professionnel qui accompagne des associations.
C'est ça, professionnel qui accompagne des associations. Mais plutôt, au-delà de ça, professionnel salarié. Quand je pensais professionnel, je pensais à salarié, du coup, parce que c'est un rapport qui est différent de bénévole à bénévole ou de bénévole à bénéficiaire. Et du coup, comment nous aussi, en tant que professionnels, on peut traduire pour que le message soit entendu par notamment les pouvoirs publics, par les financeurs, les décideuses. Parce que je pense qu'il y a cet enjeu aussi, parfois, de comment on traduit aussi... des violences vécues en politique publique, quand même. Je rigole, hein, parce que voilà, moi, je rigole, mais c'est hyper important de voilà comment on traduit aussi des vécus en politique publique, parce que l'objectif, en tout cas, à mon sens et à mon niveau, il est là, c'est de transformer notre société pour une société plus égalitaire. Mais depuis, je trouve que, et c'est pour ça que je suis toujours positive et très contente de ces espaces, et que ça nous permet aussi de réfléchir et d'aller plus loin. Et de proposer un autre modèle. Et c'est d'autant plus le travail de la société civile de le faire, aka les associations. Voilà.
Pour rejoindre, en fait, c'est lorsqu'il y a des discriminations, lorsqu'elles arrivent, à quel point, en fait, la structure elle-même est fragilisée, voire paralysée, lorsqu'il s'agit de racisme, d'islamophobie. Et donc, toutes ces questions-là qui se sont posées pendant ces deux jours ont permis, en tant que personne concernée, de me re-questionner, de réaffirmer le fait que l'idée, ce n'est pas de casser des structures ou de faire en sorte que plus rien ne fonctionne, bien au contraire, c'est trouver les moyens pour les autres, car l'idée de me réinvestir dans ces espaces-là, j'avoue, flemme. Pour autant... trouver les moyens pour que les camarades, les bénévoles, car nous sommes tous des bénévoles dans ma structure, pour qu'il y ait une montée, non pas au niveau de la... Oui, une montée vers la gouvernance des territoires, des personnes concernées, même si j'en fais pas, pour moi en tout cas, un fait. J'ai pas besoin d'une personne noire à la gouvernance, forcément. Voilà, on parlait de politique tout à l'heure, tu as évoqué la politique. Moi, si je prends un exemple, Rachida Dati, à la gouvernance, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ? Pourtant, c'est une personne racisée. Pour autant, bien entendu, le moyen d'avoir des personnes racisées, parce que tout le monde est à la recherche de personnes racisées en ce moment, je ne sais pas ce qui y arrive. C'est fou, vraiment. La représentation des femmes et des personnes racisées est devenue un critère d'être à la page. Et ben, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que pour moi, la question, c'est comment on s'allie avec d'autres assos, d'autres collectifs, comment on travaille avec ces autres collectifs qui sont en mixité non choisie, qui travaillent sur ces questions-là, et ainsi intégrer naturellement, les personnes viendront naturellement. Mais pitié, n'allez pas chercher les personnes racisées. Parce que non, c'est trop violent en fait pour nous pour l'instant, dans certaines structures. Voilà.
Oui, et ce qu'on se disait aussi, ce que tu disais, c'est ne pas forcément aller les chercher, mais par contre, créer des conditions pour que tout le monde ait envie de participer. Et je reviens sur les discriminations de genre, c'est on a beau pouvoir avoir accès à des espaces de décision et de gouvernance, si en fait on nous coupe la parole à chaque fois qu'on la prend, si en fait on nous donne jamais la parole, si on est face à des discussions qui sont super élitistes avec des langages qui sont particuliers, etc. S'il n'y a pas une certaine accessibilité et une égale considération de chaque personne qui est dans ces instances-là, ben en fait, il y a une sélection qui se fait naturellement vers les personnes qui, de fait, sont dominantes et qui ont des compétences de domination.
Et c'est un peu pour rebondir, mais je trouve qu'un bon exemple, c'est comment on part d'une bonne intention. Par exemple, je veux plus de diversité, ce mot un peu magique dans les personnes salariées ou pour des stagiaires. Mais en fait, comment on s'outille pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions, pour pouvoir vraiment permettre une montée en compétences, pour se questionner sur ses propres biais. Et en fait, le but n'est pas de condamner ou d'être dans une vision moraliste de c'est bien, c'est pas bien, il faut plus d'eux. C'est en fait comment on s'accorde sur le fait d'avoir les bons outils. Et du coup, ça veut dire avoir du temps, se former, parfois avoir les moyens financiers et parfois aussi s'accorder sur le fait que ben, là, tout de suite, c'est pas possible. C'est peut-être mieux que de mettre des personnes qui vont être minorisées en risque. Voilà. Donc, il y a aussi cette question de comment, dans cette volonté de bien faire, parce qu'on est dans un secteur où le sens est important, comment on se questionne vraiment sur nos capacités aussi. Et peut-être que nos capacités individuelles, elles sont pas possible, mais voilà, on peut s'outiller et des espaces comme aujourd'hui, ça permet de s'outiller justement et aussi de se regarder un petit peu le nombril.
Je suis désolée, je reviens sur des termes que j'entends depuis tout à l'heure, c'est le mot égalité. J'ai beaucoup de mal avec ce mot-là en fait, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'égalité, mais plutôt d'équité, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de besoins que d'autres. Donc, je suis désolée de jouer sur les mots, mais pour moi, c'est devenu tellement important. C'est pour ça que je disais hier, puisqu'on parle de notre formation, j'ai des mots qui sont trigger pour moi. Bienveillance, safe, et d'autres mots comme ça. Diversité, pour moi, ça n'existe. Pff, oh mon Dieu. Voilà. Voilà. Oups, aïe, je sais pas. Voilà.
Je pense qu'aussi hier, on a parlé du fait d'essentialiser une personne à une partie de son identité. Je vais raconter une anecdote personnelle qui était sur la question du genre. Alors là, je découvre qu'il y a des associations qui n'arrivent même pas à avoir des femmes. Quand même, je trouve ça assez incroyable. Et donc, on m'avait contactée pour venir faciliter dans une association. Et bon, j'avais quand même pas mal d'expérience déjà avec des envies, des méthodes, etc. Et en fait, au téléphone, le monsieur m'a dit voilà, nous, on veut des femmes dans notre équipe parce qu'on n'en a pas. Et du coup, je me suis sentie tellement réduite juste à... En fait, je me suis dit, en fait, ils s'en foutent de mon expertise, enfin, ce que je sais. Juste, il veut une femme. Et je pense que ce n'était pas l'intention qu'il avait. Et peut-être qu'il reconnaissait mon expertise. Mais en tout cas, je me suis sentie vraiment juste renvoyée au fait d'être femme, quoi. Et du coup, j'ai jamais rappelé cette personne. Enfin, j'ai jamais intégré le collectif. Parce que juste ça, en fait, juste le fait de savoir qu'il n'y avait que des hommes dans une asso, je crois que, je ne sais plus les chiffres exacts, mais je pense dans l'associatif, c'est 70%, c'est des femmes. Les chiffres pour les bénévoles aussi, je me suis dit, mais comment ils ont fait? Enfin, ça, de là, pour moi, c'est presque une volonté, quoi, qu'il n'y ait pas de femmes. Bon, voilà. Du coup, on a aussi abordé cette question d'essentialiser les personnes sur des critères identitaires.
Pour rebondir avec ce que tu dis, je trouve que ça peut être les dérives parfois de la parité, en fait, de cette volonté, et notamment sur les questions d'égalité femmes-hommes, c'est vraiment inscrit, il y a une forme de discrimination positive qui est instaurée par la loi, et je trouve pour le mieux, même si du coup il a beaucoup de limites après derrière, on se retrouve dans des situations où en fait on sent qu'on est le quota. Moi, je trouve ça extrêmement violent. Mais en fait, je pense que voilà, des échanges qu'on a eu depuis hier, ce qui me vient là, c'est au-delà de chercher d'avoir la parité, parce que c'est une obligation et qu'il y a des besoins d'avoir tant de femmes ou tant de personnes racialisées. C'est du coup comment on réfléchit. Et je pense que ça, en plus, peut-être que je me répète d'une chose qui a déjà été évoquée en parlant là tout de suite, comment on crée les conditions pour attirer aussi c'est ce type, enfin ce public où c'est les femmes ou les personnes racisées, c'est comment on crée les conditions pour. Puis tout à l'heure, on l'avait évoqué sur le fait que des réflexions de partenariat se font également, comment on fait pour aller plus vers, parce que finalement, quand les conditions sont amenées pour aussi répondre aux besoins des femmes et d'autres minorités, en fait, elles viennent. Donc, il n'y a plus besoin de se dire, merde, il n'y a pas de femmes dans notre association, merde, il n'y a pas de personnes racialisées dans notre association. Elles sont là de fait parce que les conditions sont pour, ou du moins, au-delà des conditions, le projet associatif a été aussi pensé à comment on fait pour faire venir une diversité de public. Ah, je pense à des associations qui vont, par exemple, travailler sur les questions de précarité, qui sont pour le coup intersectionnelles à plein de milieux sociaux, que ça soit les questions de ruralité ou les questions de, je pense également de quartiers populaires. Du coup, comment on réfléchit pour faire venir, enfin avoir en tout cas des, un public bénéficiaire qui vienne de ces deux milieux. Et là, je caricature, il y en a plein d'autres. Hein, de ces deux milieux, comment on fait? En fait, il y a des, une réflexion d'aller vers des d'autres acteurs locaux. Moi, je trouve que ça fait beaucoup écho avec ce qu'on s'est dit. En fait, finalement, aussi la force des associations. Normalement, c'est de, d'essayer de réfléchir son projet aussi associatif pour pas marcher sur les plates-bandes d'une autre structure, mais pour venir compléter ou créer des espaces en plus. Personnellement, moi, c'est pour ça que je suis trop contente d'être là aujourd'hui et de ces espaces, parce qu'ils sont très rares pour les associations d'avoir un espace où, ok, bah oui, c'est certes décembre, c'est la fin d'année, mais tu as une structure associative et féministe en plus, donc on adore, qui dit, on va prendre 4 jours pour pouvoir réfléchir sur les questions. Et en fait, finalement, elle vient compléter le travail que nous, on porte également en tant qu'association qui a pour projet de transformer la société. Donc, c'est comment on vient créer de comment on est en complémentaire et pas en surplus d'autres associations et comment on travaille ensemble, parce que cet espace et comme tu l'as super bien présenté tout à l'heure, je le trouve, elle a aussi cette force, c'est qu'elle nous permet aussi en tant qu'association de nous rencontrer, ensuite de pourquoi pas réfléchir à des projets aussi ensemble, hein, mine de rien, elle a aussi cette force là, donc voilà.
Je pense qu'il faut aussi dire qu'on est les propres experts de nos vies. Et que y a personne, aucun spécialiste qui peut remplacer ça. Et les personnes concernées sont les comment, je sais pas comment le dire, mais les c'est elles qui agissent pour elles, en fait. Enfin, c'est voilà, c'est mal exprimé, mais voilà, on est les experts de nos propres vies. Et s'appuyer sur des associations qui sont spécialistes. Plutôt que de faire à la place d'eux ou mal faire, je pense que c'est s'allier avec des associations ou des organisations qui ont l'habitude d'eux, je pense que c'est pas mal aussi. Voilà.
Alors, je vais prendre un peu le contre-pied sur la question de la parité et l'égalité, mais en même temps, c'est normal, on a des assos, on a toujours des visions qui se complètent mais qui différencient parfois légèrement en réalité. Mais moi, je pense, et notamment quand on regarde les chiffres, la parité, c'est pas suffisant, mais c'est plus que nécessaire. C'est-à-dire que, avant la parité, dans la politique, dans un certain nombre d'institutions, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait pas beaucoup de femmes. Alors non, il y a toujours pas beaucoup de femmes, pas encore assez, et elles sont encore cantonnées à certains rôles, mais entre guillemets, ça a fait reculer le plafond de verre. Il n'a pas explosé, parce que la parité, la question des chiffres, la question des quotas, quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, au-delà de la France, et ainsi de suite, elle renvoie quand même à une réalité, c'est que si, entre guillemets, on n'impose pas la présence de personnes minorisées, les personnes ne sont pas là. Alors, ce n'est pas suffisant, et je trouve qu'il y a toujours une étude que moi je trouve qui est très parlante. C'est une étude qui a été faite par le CSA sur la représentation des personnes minorisées socialement dans les médias. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la majorité des personnes racisées qui apparaissent à la télé, elles viennent des États-Unis. En fait, dans 80% des séries télévisuelles françaises, en fait, on n'existe quasiment pas. On existe principalement autour de rôles très archétypés, c'est-à-dire le voleur. Je peux prendre un exemple de série, par exemple, que tout le monde adore. Moi, je l'ai adoré, mais à un moment, je me suis posé des questions. Si tu regardes, par exemple, la série 10%, les personnes racisées, elles sont soit problématiques parce qu'elles sont violentes, soit elles sont à l'accueil. Et effectivement, c'est une série parmi tant d'autres. Je pourrais prendre l'exemple de nombreuses séries télévisuelles où, en fait, la question des quotas, elle est fondamentalement liée à la question, en fait, de à quel moment on essaye de faire de la place. Alors, c'est jamais suffisant parce que, par ailleurs, bref, il y a toujours des manières de contourner les quotas et toujours des manières de s'en sortir. Là, il suffit de regarder, par exemple, sur les questions financières à l'Assemblée nationale. Ce sont principalement des hommes qui discutent du budget. Mais, en tout cas, je pense que c'est important de tirer le fil parce que, en fait, des fois, faut mettre le pied dans la porte. Alors, c'est pas suffisant pour passer, mais des fois, il y a quelques personnes qui se faufilent et après, on peut casser la porte en entier. Et je trouve qu'il faut qu'on a besoin de pouvoir à la fois critiquer le système et à la fois en profiter de temps en temps. Et je trouve que c'est important en tant que tel, en termes d'association, de se dire à chaque fois, est-ce qu'on fait de la place à tout le monde? Alors, c'est pas parce qu'on se pose la question de pourquoi on fait, est-ce qu'on fait de la place, est-ce qu'on a envie qu'on va réellement faire de la place, parce qu'en réalité, moi je le dis souvent, mais c'est pas parce qu'on dit qu'on va parler de jeunes des quartiers ou de jeunes en situation de précarité ou de personnes racisées et ainsi de suite que les gens vont rentrer et passer le pas de la porte. Mais en réalité, la première question, moi je trouve qui est toujours très vraie, c'est en fait, est-ce que ce qu'on leur raconte les intéresse? Et en règle générale, si ça les intéresse pas, c'est qu'on parle mal du problème ou qu'on s'adresse mal à la personne. Parce que c'est bête et méchant, quand quelque chose nous intéresse, on a envie de s'investir. C'est pas vrai que des personnes minorisées n'ont pas envie de s'investir dans les associations, en politique, en matière de santé ou autre. Par contre, c'est la façon dont on parle du sujet, c'est la façon dont en réalité on dit qu'on ouvre la porte, mais en réalité on la ferme devant la porte des gens, parce que malgré tout, on a du mal à céder le pouvoir, qui explique toutes ces difficultés et qui doivent en permanence nous interroger en tant qu'association en termes de, entre guillemets, d'acteurs du lien social.
Juste pour revenir sur la formation, en fait, la question de gouvernance, c'est comment, quand il y a une difficulté ou même avant les difficultés pour anticiper les risques, parlons entreprise, quels sont les facteurs organisationnels qui amènent justement aux oppressions et au mal-être, à la souffrance par le travail, etc. etc. Et j'ai une copine qui dit une phrase par rapport à la représentativité que j'adore beaucoup, qui est « Ok, pour casser le plafond de verre, mais c'est compliqué quand le plancher est collant. » Voilà. Donc c'était cette petite phrase que je voulais lui mettre dans ce podcast parce que je la trouve très représentative de la réalité.
En vous écoutant, ça me fait penser, alors là, plutôt côté politique publique, mais vous avez donné des exemples aussi, c'est typiquement quand on dit qu'il faut aller toucher les publics invisibles, et ce terme d'invisible, je pense que c'est exactement là tout ce que vous avez dit. En fait, ces publics ne sont pas invisibles, c'est juste que bizarrement, il n'y a pas la bonne focale pour les voir et voir, comme tu parlais là de plancher collant. Enfin, parfois, t'as tout fait pour qu'ils soient. En plus, souvent, ils sont bien visibles. Il y a bien les caméras qui sont. Enfin, là, moi, j'ai une image en tête, du coup, je vous la partage, qui est sur un quartier qui a été complètement réhabilité dans le nord de Paris, où on a même fait une maison de la conversation, parce que c'est sûr qu'après avoir tout sécurisé, où avant on pouvait rentrer chez soi tranquille, et maintenant je crois qu'il faut jusqu'à 6 ou 7 badges pour rentrer chez soi. Mais du coup, on a mis une maison de la conversation pour recréer du lien social. Mais juste à côté, il y a une espèce de marché aux puces un peu informel. Alors là, pour le coup, il y a toutes les caméras de surveillance qui sont dessus. Et pourtant, c'est là où on fait peut-être plus de recyclerie que dans la maison de la conversation juste à côté. Mais les publics invisibles, ils sont sous les caméras. Enfin bref, ça reprend un peu, je pense, un peu ce qu'on est en train de se dire. Et du coup, peut-être là, en plus, vous avez, je pense, bien posé les problèmes. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour ce partage qui est hyper intense. Et justement, là, tu posais la question de, bah, du coup, dans la gouvernance et du coup, dans ton asso, comment on fait? Alors, du coup, je ne sais pas où vous en êtes dans votre stade de votre formation. Est-ce que vous avez déjà eu des petites billes ou peut-être juste là, à ce stade-là, déjà, vous êtes venu seul ou avec d'autres gens de vos assos ici? Et du coup, comment vous pensez peut-être revenir vers les gens de vos assos avec... par rapport à cette formation et du coup, comment peut-être intégrer tout ce que vous avez commencé à apprendre et pointer dans vos organisations?
Alors, je ne vais pas être le bon exemple parce que j'ai quitté l'espace décisionnaire pour justement me concentrer sur un espace plus local. Parce que c'est un espace dans lequel on peut discuter, où on peut essayer de construire et justement d'impulser avec les autres comités locaux, c'est comme ça qu'on ça s'appelle, avec les autres comités locaux, une gouvernance partagée et surtout une remontée des problématiques des territoires qu'on oublie souvent au niveau national. Parler tout à l'heure de ruralité, de quartier populaire, mais ça ne peut pas se voir au niveau national. Si je prenais l'exemple d'un gouvernement, on demande à un ministre le prix du ticket de métro, il ne sait pas. Donc c'est pareil en fait. Et si on a une stratégie commune, et ça, ok, qu'elle soit discutée de manière, bien entendu, horizontale, j'aime plus du tout ce mot-là non plus, horizontale,
Et vous allez peut-être ressortir avec un lexique à la fin de, ces 4 jours.
Oui, oui, vraiment, en plus. Comment on met en œuvre dans les territoires? Et dans ces cas-là, comment les personnes qui se trouvent dans ces territoires ont accès aux espaces de décision? Et c'est ça qui est important, je pense. Et c'est moi l'impulsion que je veux tenter de donner avec mes camarades. Et ça se joue de toute manière, de manière collective. Ça ne peut pas se jouer individuellement parce que c'est trop de souffrance, épuisant. Et puis parfois, on a eu des témoignages où ça ne sert à rien, en fait, de s'épuiser pour rien. Donc, et à un moment donné, si on ne se sent pas à l'aise, si vraiment ça ne va pas, je pense qu'on peut aussi se dire... on va ailleurs, on fait autre chose, laissons la place à l'entre-soi s'il le faut, mais laissons la place.
Moi, je me suis dit que j'allais faire venir les brûlantes et cette formation directement au cœur.
Peut-être pour compléter, vous êtes venue de votre, de votre propre initiative ou portée par votre association? C'était votre demande, celle de votre association?
Alors, pour répondre à la première question sur qu'est-ce qu'on va mettre en place aussi, je trouve que cette formation, ça fait que 2 jours, certes, mais c'est déjà extrêmement riche avec plein d'outils qu'on peut mettre en place et des réflexions qu'on peut avoir. Et notamment, moi, j'ai bien aimé le fait qu'on parle de manière située, les oppressions qu'on peut vivre aussi de manière située, selon quelle place on a dans la structure. Et je pense déjà, ça sera la première chose avec laquelle je vais partir. Comment, en fait, dans nos équipes, on va se caler un temps qui, par ailleurs, c'est une instance que nous, on a et qui nous a accordé, qui est le CSE. Donc, c'est une superbe instance qui nous permet de réfléchir à ça. Et du coup, peut-être que ça sera l'espace privilégié pour réfléchir aussi, voilà, quelles sont les oppressions que je subis, moi, dans cette structure, selon où je me situe, en tant que personne sexisée, en tant que personne racialisée, selon mon âge, selon ma position hiérarchique dans l'organisation. Moi, je trouve que c'est super riche et ça nous permet ensuite de penser à des leviers d'action. Et cet après-midi, j'ai trouvé ça hyper riche aussi. C'est vraiment un outil un peu de réflexion. On a posé un peu, au regard de toutes les discussions qu'on a pu avoir, on a un peu soulevé des grosses thématiques comme les répartitions du pouvoir dans nos organisations, la reconnaissance et l'implication des personnes concernées, dont on a parlé tout à l'heure, les questions également de transparence et circulation de l'information. Enfin, je pense que en plus, en le redisant, je pense que c'est vraiment des sujets qui sont universels au mode d'organisation associative, mais même au mode d'organisation de manière générale. Et à ces questions-là, on a mis un point, moi, qui me paraît hyper intéressant, c'est quelles sont les conditions de réussite pour, voilà, sortir de ces dynamiques d'oppression, voilà, et aussi quelles sont, du coup, les actions qu'on peut mettre en place. Et ça, concrètement, cet atelier, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra réanimer en interne. Moi, je suis présente parce que c'est une volonté aussi du CSE, de l'association des équipes salariées, de réfléchir sur les effets de pouvoir dans les associations, surtout parce qu'on est une association qui se présente comme étant... qui est féministe et qui s'est bien rendu compte qu'on était féministe à destination des personnes à l'extérieur, mais en notre sein, on n'avait pas forcément des pratiques très féministes ou très égalitaires, et que du coup, il avait un intérêt à que on soit exemplaire. En tout cas, essayer d'être exemplaire. Du coup, c'était aussi une volonté, et une volonté aussi d'autres publics avec qui je suis en relation, que j'accompagne, et qui sont les premières à me faire remonter que les questions de gouvernance inclusive, comme tu l'as présenté, Nora, c'est vraiment une demande. Alors, j'ai reçu plusieurs demandes de structures me disant on aimerait vraiment travailler sur des gouvernances plus inclusives à l'image de ce que l'on essaye de renvoyer dans la société, et pour être intouchable. Et au-delà d'être intouchable, c'est aussi comment, avec ce type de gouvernance, on prend soin de nos équipes, parce que aussi dans cette volonté féministe, normalement, il y a la notion de care, de soin.
On voulait faire un zoom aussi sur les territoires ruraux, parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure sur l'impact par rapport au public cible et aux personnes bénéficiaires à qui étaient représentées dans la sphère décisionnaire. Et en fait, du coup, cultiver la question du partenariat avec des associations qui sont expertes et qui, du coup, représentent les personnes bénéficiaires, c'est pas toujours possible, ou en tout cas, c'est pas toujours facile, parce que parfois, en fait, la ressource sur le territoire, soit elle est restreinte parce que il n'y a pas 12 000 assos sur un territoire qui peut s'avérer vaste, comme ça peut être le cas en capitale. Et ou alors, c'est des assos qui vont avoir un demi équivalent temps plein et qui s'appuient aussi beaucoup sur des bénévoles. Donc ça pose cette question de ressources, cette question de moyens, de combien de moyens disposent du coup ces petites assos qui ont des territoires d'action qui sont super vastes. Enfin, souvent, on se retrouve avec un demi équivalent temps plein pour avoir une action sur tout le département et du coup couvrir des milliers de bénéficiaires en fait. Et ça pose aussi la question quand on se repose sur des bénévoles. De la professionnalisation de l'action et de la compétence du coup qu'on met en place et du cadre qui soit qui évite les risques et qui soit sécurisant et de comment en fait on met en place une action en fonction d'un impact qui a été défini sur un projet associatif, comment est-ce qu'on fait en sorte que le projet il soit vraiment à destination du territoire et des besoins du territoire et pas parce qu'il y a eu certaines personnes qui se sont mises en association 30 ans auparavant et qui ont envie de garder le pouvoir sur cette association et qui ne remettent pas forcément à jour ni les statuts de l'association, ni le projet associatif. Donc ça, c'est une question. Et on se posait aussi la question de... En fait, comme c'est aussi un peu toujours les mêmes personnes qui sont dans le travail associatif.
Oui, en fait, sur le territoire de la Creuse, moi, je peux témoigner sur le fait que... alors, on est un petit territoire, mais il y a quand même beaucoup de personnes et on a peu de moyens, donc il y a quand même peu de structures. Et dans ces peu de structures, on a quand même globalement toujours les mêmes bénévoles. Je donne un exemple, on est quelques salariés reconnus du territoire même, quoi. Et on reste 3 à 4 ans dans des structures, on change et à chaque fois, ça devient une blague maintenant de dire « Ah, t'es passé dans quelle structure ?» voilà. Et du coup, nous, les salariés, on est principalement des meufs, quoi. Et dans nos CA, c'est surtout des hommes, quand même. Et du coup, il y a cette question de baise. Ils ont plusieurs casquettes et c'est les mêmes personnes, puisqu'on est peu nombreux. Et donc, les dynamiques de pouvoir se renforcent et se perpétuent. Et aussi, il y a la question dont on dit souvent, on entend de Paris, quoi, du haut, enfin, en tout cas du national, il faut aller sur les territoires ruraux, la ruralité a de vrais enjeux, donc c'est super. Mais en fait, on n'attend pas forcément qu'on vienne vers nous, parce qu'on fait le taf, même si on est peu et qu'on on a 1000 casquettes. Il y avait ça, puis il y avait aussi sur... il y a souvent ce discours de dire, oui, mais si on est concerné, on s'investit en ruralité, sur la précarité, ça s'avère pas forcément vrai. Par exemple, en Creuse, on a vraiment des difficultés sur la question de la mobilité. Et par exemple, dans un collectif queer, on organise la marche des fiertés, donc c'est extraordinaire pour un territoire comme la Creuse, mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas participer ni être bénévoles, parce que passer le pas d'un lieu ou être visible en tant que personne queer, c'est sauter et c'est prendre des risques toujours et encore, quoi. Du coup, c'est toutes ces questions-là, peut-être qu'il est important d'amener sur ce genre de sujet.
Oui, et du coup, quand sur la question de sauter, en fait, ça repose la question de qui protège, en fait, et encore une fois, finalement, les associations et la société civile prennent font en fait l'action, cette action de protection et que ne fait pas l'État. Et du coup, il y a encore, en fait, on se rend compte aussi que les pouvoirs publics, quand ils viennent, ou en tout cas sur des demandes de financement régional, par exemple, ou sur des grosses actions régionales, souvent, on retrouve des pouvoirs publics qui viennent et qui se retrouvent à faire de l'ingérence plutôt que répondre aux besoins des territoires. Et donc, la grosse question, c'est comment est-ce qu'on fait remonter ces besoins-là du territoire? Et très souvent, depuis les territoires ruraux, on a l'impression d'avoir quelque chose de descendant de la capitale ou de la ville vers nos territoires. Et c'est comment, en fait, on peut faire arriver nos voix jusqu'à la grande ville, quoi.
J'en profite parce que là, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser. J'ai travaillé là sur un trajet en Ardèche, sur un projet en Ardèche, et donc je vois exactement de quoi vous voulez parler. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est... que souvent les projets là, de financement dont tu parles, en fait, ils sont très bien pensés de manière systémique. C'est-à-dire, même parfois, c'est par palier. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un schéma départemental de je ne sais pas quoi pour avoir accès au numéro 2 du palier qui va être, je ne sais pas moi, acheter un matériel quelconque, qui va être ensuite la condition nécessaire pour avoir le numéro 3. Et en fait, le numéro du poste, parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle, c'est qui finance les postes, c'est le numéro 5 de ton palier. Et le problème, c'est quand tu es sur des petits territoires, donc moi, là, j'ai travaillé sur un petit village de à peu près 400, moins de 400 habitants. Bien évidemment, le soutien politique, il n'est pas méga là. Même s'il est là, en fait, tu n'as pas forcément les moyens pour le faire. En plus, tu as les élections municipales, donc autant te dire que là, il n'y a plus de soutien du tout. Et du coup, ça devient des situations un peu compliqué.
Ça me fait penser aussi que là, je vais parler de la Creuse, je vais balancer sur le territoire, parce que c'est pas un secret quoi. Ça a eu un article dans Le Monde. Il y a eu une liste rouge de fait par les institutions sur les associations pour demander aux financeurs en fait de ne plus financer ces associations parce qu'elles sont des associations rurales militantes qui défendent les droits humains. Ça, c'est de mon côté. De leur côté, c'est des woke extrémistes, quoi. Et du coup, il y a ce sujet... Et terroristes, bien sûr. Il y a ce sujet sur le fait que, en fait, on est méga concernés. On est peu nombreux, on est fatigués, mais on est ultra concernés. Et on fait du plaidoyer, on fait des manifs, on milite, quoi, pour dire que, en fait, arrêtez de vous venir nous dire comment faut faire, mais donnez-nous les moyens, parce qu'en fait, le taf, on le fait. Merci. Et ça me faisait penser aussi au contrat républicain, qui est dans la même mood, quoi, dans le même mood, et avec le fameux sujet de la laïcité. Et du coup, il y a ce truc de paradoxal et d'incohérence qui nous mettent souvent, dans des situations très complexes, parce qu'on défend par ailleurs à nos endroits, parce que peut-être qu'on a ce privilège-là d'être dans ces associations, contrairement à d'autres, on défend quand même des personnes précaires et qui ont des besoins fondamentaux, parfois de survie, comme le disait la collègue tout à l'heure. Et du coup, on est toujours en train de vouloir négocier, mais comment et avec quel compromis? Et après tout, la ruralité peut rester rurale, c'est pas du tout... parce que parfois, on entend ça aussi des grandes villes, quoi, de dire, mais la ruralité, c'est un problème, il faut que ce soit moins rural. Non. La ruralité, ça va, mais il nous faut juste des moyens, quoi.
Merci à toutes vraiment pour ce partage et pour aussi avoir accepté qu'on suive un petit bout de cette formation, concertation, discussion avec vous. C'était hyper intense. J'ai vraiment l'intuition et le sentiment qu'on a juste, on parlait de plancher, soulevé un bout du tapis sur tous ces sujets. Comme on le disait, ça tombe bien, cet épisode est le premier de la quatrième saison. Peut-être ça c'est l'occasion de le décliner et d'approfondir toutes ces questions dans de prochains épisodes toutes ensemble. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter, au moins qu'il vous aidera à vous poser peut-être des bonnes questions d'initier les discussions au sein de vos structures. Et bien entendu, comme d'habitude, si nos discussions ont pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre ou dont vous avez entendu parler ou que vous connaissez, on vous invite chaleureusement à nous le dire et à nous envoyer vos témoignages à l'adresse mail hello@question-asso.com que vous retrouverez dans la discussion de cet épisode et on sera ravis de vous répondre et de co-construire un épisode avec vous. Donc pour rappel, vous pouvez nous suivre sur notre plateforme de podcast, sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Peertube. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources, ça qu'on n'a pas forcément partagé beaucoup, mais on compte sur vous autour de la table pour nous en envoyer et on les ajoutera à l'épisode pour creuser un peu le sujet et avoir des premières billes. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume, comme toujours, Desjardins de Synchrone TV qui a la réalisation et la jolie musique que vous allez entendre entendre maintenant est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut.
Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts.